Le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Varsovie, il y a 75 ans, la résistance tente, les nazis écrasent. Des commémorations aujourd'hui au goût plus qu'amer, l'extrême droite en toile de fond. La prime à la casse, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement serre la vis pour verdir le dispositif et pour faire des économies. Plus d'hectares ravagés par les incendies en 6 mois qu'en un an, encore une conséquence de la chaleur et de la sécheresse. Toute la France, pas seulement le sud, est concernée. À 8h20, avec votre invité Pierre Veil, on parlera d'Hong Kong.
Absolument, avec Jean-Philippe Béjat qui est un spécialiste de la Chine. La crise à Hong Kong, les violences durent maintenant depuis 2 mois, des manifestations monstrent un pays, deux systèmes. Les habitants d'Hong Kong n'y croient plus, ils craignent pour leur liberté. Question donc pour Jean-Philippe Béjat et vos questions au 01 45 24 7000 vers 8h35.
On parlera aussi dans ce journal du débat de la primaire démocrate aux États-Unis. Joe Biden en mode attaque cette nuit. Le rapport de l'IGPN en travers de la gorge. Manifestation en hommage à Steve à Toulouse hier soir avant celle de Nantes samedi prochain. Et puis les joueurs du PSG sont en Chine. Ils sont accueillis comme des stars. Vous l'entendrez à la fin du journal.
France Inter.
Quand l'emblème de la résistance aux nazis devient, 75 ans plus tard, celui des ultranationalistes, dérive de l'histoire à l'image d'une Europe devenue schizophrène, une Europe construite pour la paix et qui fabrique aujourd'hui des xénophobes par milliers à l'Est, en Pologne. En août 44, la résistance se soulève, écrasée très vite par l'armée d'Hitler, et les commémorations aujourd'hui ont un goût plus qu'amer pour les résistants survivants. Leur symbole, la Kotvitsa, une sorte d'encre marine, est devenue l'étendard de l'extrême droite. C'est un reportage de Thomas Giraudot.
À Varsovie, les nazis ont arrêté et assassiné des jeunes de 14-15 ans qui osaient peindre sur les murs la Kotvitsa. Ces deux lettres P et W en forme d'encre de bateau, symbole de la résistance. En 44, Anna Pchetpeuska-Tchetsiakovska a vu ses camarades mourir. Elle observe aujourd'hui les nationalistes de son pays porter fièrement la Kotvitsa.
C'est comme si mon symbole était profané. Mais pas seulement, aussi nos idées et valeurs de jeunesse piétinées. Pour moi, ces jeunes qui portent la Kotvitsa sont soit devenus fous, soit ils ne comprennent rien. Je ne sais pas trop si ces nationalistes sont des néo-nazis. J'ai envie de croire que ce sont uniquement des imbéciles.
À l'autre bout de Varsovie, Wanda Traczek-Stawska s'insurge aussi contre l'appropriation de son symbole. Pendant l'insurrection, elle a pris les armes et combattu l'occupant.
Nous sommes vieux maintenant et nous n'avons plus de force, nous sommes fatigués. Alors la seule chose qui nous reste, c'est de crier, crier que c'est notre symbole. C'est triste parce que maintenant les nationalistes, qui sont un vrai danger pour la paix internationale, utilisent la Kotvitsa.
Une loi protège pourtant la Kotvitsa, infligeant une amende pour utilisation abusive du symbole. Mais elle vise surtout son emploi commercial, les produits vendus à son effigie. Varsovie, Thomas Giraudot, France Inter.
L'Europe de 2019, c'est aussi celle qui a bien du mal à organiser la solidarité, l'accueil des migrants au compte-gouttes. Ceux du navire Gregoretti ont finalement pu débarquer hier soir en Italie. La France, l'Irlande, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg sont les 5 pays d'accord pour les répartir sur leur territoire.
8h04 en France, Hélène Roussel, une mesure qui concerne des millions de personnes revues à la baisse aujourd'hui.
Oui, la prime à la casse fait marche arrière. À l'origine, le dispositif est mis en place pour encourager les Français à acheter des voitures moins polluantes, mais cette prime à la conversion est victime de son succès. Le gouvernement visait 500 000 bénéficiaires sur tout le quinquennat. Ils sont déjà 300 000. Alors, à partir d'aujourd'hui, les règles changent, Manuel Ruffez.
Le succès bien supérieur aux attentes permet au gouvernement de recentrer le dispositif. D'abord pour être plus juste socialement, ensuite pour ne viser que l'achat de véhicules les moins polluants. Il s'agit donc de se concentrer sur les ménages les plus modestes et de mettre fin à un effet d'aubaine pour les plus aisés qui ont pu, dans un premier temps, acquérir de luxueuses voitures électriques et bénéficier de la prime. Sont exclues désormais les voitures les plus chères, au-delà de 60 000 euros. Le montant de l'aide est maintenant calculé en fonction du revenu fiscal de référence par part. Les ménages à faible revenu, qui mettraient au rebut leur vieille voiture pour acheter un véhicule hybride ou électrique, pourrait ainsi toucher le maximum, soit 5 000 euros. Et puis le gouvernement baisse les plafonds d'émissions de CO2 de 122 à 117 grammes par kilomètre et sort de la prime tous les véhicules immatriculés avant le 1er septembre 2019 classés critère 2. Autant dire qu'il exclut en particulier tous les diesels d'occasion.
Verdir plus et faire des économies, pourquoi pas, disent les professionnels de l'automobile, mais pas au plein cœur de l'été. Le calendrier pose définitivement problème pour Frédéric Landel, porte-parole de la profession en Mayenne.
Nous sommes tous, nous, les professionnels de l'automobile, pour faire en sorte que l'écologie
avance, qu'il y ait de moins de pollution dans ce bas monde. Par contre, c'est la soudaineté de la décision de la ministre qui est surprenante. C'est-à-dire qu'en gros, une annonce au 17 juillet pour un changement de programme au 31 juillet au 1er août, c'est impossible à suivre pour nous, avec une population qui est en vacances, avec l'impossibilité de relayer ces opérations en termes de communication. Je suis pas sûr que ce soit bien ficelé. Et puis en termes de soutien, je pense que les clients vont pas suivre parce que les moyens mis en place sont trop faibles, clairement.
Le président du Conseil national des professions de l'automobile répondait à Gilda Mingui de France Bleu Mayenne. D'autres changements sont prévus en ce 1er août. La petite baisse des tarifs réglementés du gaz, moins 0,5%, et à l'inverse, la hausse de ceux de l'électricité, plus 1,2%. EDF et la facture qui fait mal. L'électricien va devoir payer une amende d'€1,8 million, un record en France pour des retards de paiement. EDF accusé de ne pas avoir réglé ses fournisseurs en temps et en heure. Bercy, avec la répression des fraudes, en fait un exemple. Un signal fort envoyé à tous les mauvais payeurs. Et puis en bref encore, le nouveau patron d'Air France a réussi à convaincre les pilotes de faire décoller son low-cost Transavia, commande confirmée de 60 Airbus A220. Le Canadien Ben Smith dans le Figaro ce matin qui fustige au passage la nouvelle écotaxe sur les billets d'avion prévue l'an prochain. Nous taxer, dit-il, c'est empêcher Air France d'investir.
Il est 8h07, c'était il y a 16 ans, jour pour jour, la mort de Marie Trintignant.
Et le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, arrêté à Vilnius en Lituanie, là où l'actrice était en tournage, là où il lui a donné les coups. Il sera condamné à 8 ans de prison. Aujourd'hui, on dirait féminicide. Mais c'est bien à l'aune de ce drame ultra médiatisé qu'on mesure tout le chemin parcouru, qu'on mesure aussi celui qui reste à faire. Rémi Brancato.
27 juillet 2003, Marie Trintignant est dans le coma à Vilnius, en Lituanie. Jour après jour, la télévision, comme tous les médias, traite l'information.
L'actrice s'est violemment disputée avec son compagnon.
Sur les circonstances qui ont poussé au drame, le chanteur maintient sa version des faits.
Il a dit c'est accident.
Un accident, le mot est aussi employé sur France Inter. Pour Stéphanie Lamy, militante féministe et spécialiste de la guerre de l'information, de nombreux termes posent problème.
Ce qu'on entend, c'est elle s'est disputée, donc ce sera quelque part de sa faute. Des mots comme drame, accident, il a été poursuivi pour homicide volontaire. Ce ne peut pas être un accident.
Et à la veille du procès en mars 2004, l'affaire fait toujours la une.
Le crime passionnel, c'est ce que plaidera Bertrand Cantat
pour
sa
défense. On entend des phrases comme crime passionnel qui effectivement n'existe plus dans le lexique judiciaire depuis 1975. L'entendre en 2004, c'est archi choquant.
Alors 16 ans après, les mots employés pour informer de la mort des femmes sous les coups ont un peu changé, note Stéphanie Lamy.
Ce sont encore des propos qui sont tenus dans le judiciaire. On l'entend un tout petit peu moins dans la presse maintenant parce qu'il y a eu un formidable travail depuis quelques années pour détricoter en fait tous ces mécanismes sémantiques qui inversent en fait la culpabilité. Il y a une prise de conscience, mais elle est encore très fragile.
Et pour elle, il faut désormais que le terme féminicide s'impose dans le débat public.
1er août 2019, 1er août 2003, la mort de Marie Trintignant il y a 16 ans, reportage de Rémi Brancato. Pas de cible précise, mais visiblement un surveillant pénitentiaire était sur la liste. Un projet d'attentat déjoué en France en fin de semaine dernière, on ne l'a appris qu'hier. 3 personnes mises en examen et écrouées, dont un revenant du djihad qui devait d'ailleurs être libéré dans les jours qui viennent. Tous à Nantes pour Steve. De nombreux messages sur les réseaux sociaux appellent à un rassemblement hommage à Steve après-demain samedi dans le centre-ville de Nantes. Le jeune homme tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique sans aucun lien avec une charge des forces de l'ordre. Le rapport de l'IGPN ne passe décidément pas. Hier à Toulouse déjà, près de 200 personnes ont manifesté repoussées par les gaz lacrymaux. Winnie Claret, France Bleu Occitanie était sur place.
Les slogans de haine envers les forces de l'ordre sont repris les uns après les autres dans le cortège. Selon Myriam, la police récolte ce qu'elle a semé.
Il y a eu trop de violences policières, il y a encore un mort, voilà, c'est un jeune de 24 ans.
Et pour cette gilet jaune de la première heure, la mobilisation pour Steve rameute beaucoup plus de monde que les dernières manifestations du mouvement nées en novembre.
C'est vrai qu'avec l'été, certains sont partis en vacances. Malgré tout, les gens se mobilisent parce que c'est important, parce que l'État et la police ont dépassé les limites qu'on peut accepter. Gros ras-le-bol.
À peine un kilomètre parcouru et le cortège fait face à un cordon policier. La tension monte parmi les manifestants. La police les force à rebrousser chemin en lançant des grenades lacrymogènes, ce qui exaspère Michael.
On parle des droits de l'homme derrière. Dès qu'il y a un contre-pouvoir qui se met en place, dès qu'on n'est pas content, dès qu'on manifeste comme maintenant, on se retrouve à faire gazer. C'est pas normal.
Les manifestants termineront leur marche au Capitole avec la ferme intention pour la plupart de se mobiliser jusqu'à ce que la lumière soit faite sur la mort de Steve.
Winnie Claret, côté politique, le président de la Loire-Atlantique invite tous les parlementaires de son département à réclamer une commission d'enquête pour plus de transparence. Un groupe de jeunes de Famec, un autre d'Ucange, nous sommes en Moselle, près de Thionville. Affrontement à coups de couteau hier après-midi entre bandes rivales, peut-être lié à du trafic de drogue. Un jeune de 17 ans n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort cette nuit à l'hôpital de Mercy, nous apprend France Bleu Lorraine Nord. Deux autres ont été grièvement blessés et les deux villes ont été placées cette nuit sous très haute surveillance. Six nouveaux avions bombardiers d'eau pour 350 millions d'euros. La France achète car les incendies se multiplient. La sécheresse et la chaleur n'y sont pas pour rien. Résultat, en ce tout début du mois d'août, il y a déjà plus d'hectares partis en fumée que sur toute l'année dernière. Et c'est assez rare, mais cette année, il n'y a pas que le sud qui flambe. Encore un feu avant-hier, par exemple, aux portes de la ville de Caen, en Normandie. Romain Pascalotti est le chef des pompiers dans le Calvados.
On est vraiment, avec l'état de la végétation, des départs de feu qui se propagent très vite et qui, à l'arrivée des secours, concernent déjà des très grandes surfaces. Des choses que l'on n'était pas habitué à devoir faire dans des départements comme le nôtre. C'est ce qu'on appelle de la défense de points sensibles. C'est défendre en fait les habitations, défendre toutes les constructions, éventuellement protéger des véhicules pour éviter qu'ils ne soient atteints par le fait de végétation et qu'ils brûlent à leur tour. Il est bien entendu trop tôt pour savoir si on est dans une situation exceptionnelle liée à un climat ponctuel ou si effectivement tout le monde l'a en tête. Est-ce que ce sont les premières conséquences du réchauffement climatique? Ça, il faudra le voir sur plusieurs années, mais en tous les cas, nous, à notre niveau, nous allons en tirer un certain nombre de retours d'expérience de façon à être plus efficace si malheureusement de telles situations devaient être de nouveau rencontrées dans les années à venir.
Le chef du groupement des opérations du SDIS dans le Calvados avec Michel Le Gorgeux de France Bleu Basse-Normandie. Sans commune mesure, ces incendies taillent XXL en Sibérie. Les images qui nous parviennent sont impressionnantes. 3 millions d'hectares de forêt brûlés en quelques jours. Moscou envoie l'armée. Aux États-Unis, le long chemin jusqu'à la présidentielle. Un an avant, les démocrates s'écharpent déjà pour l'investiture. Deuxième volet du débat de la primaire hier à la télé avec Joe Biden, le plus modéré des modérés, en mode contre-attaque. Loïc Loury à New York a suivi le débat pour France Inter.
Joe Biden n'aura même pas attendu le début du débat. Vas-y doucement, gamine, voilà ce que l'ex-VP a dit à Kamala Harris en lui serrant la main. Ce soir, c'est d'abord à Donald Trump que s'adresse le favori en louant, c'est toute l'ironie, la diversité des profils présents sur le plateau.
Monsieur le Président, c'est ça l'Amérique, et nous sommes forts et grands grâce à cette diversité.
Un message d'unité rapidement oublié, Kamala Harris, fébrile, attaque un Joe Biden tout sourire.
Les compagnies pharmaceutiques et les assurances, juste l'an dernier, ont amassé 72 milliards de dollars, et votre plan, c'est le statu quo, vous ne faites rien. You do
nothing. Le sénateur Cory Booker, lui aussi, saisit sa chance. En cause, le soutien passé de Biden à une loi répressive qui a poussé de nombreux Noirs en prison.
La prison à vie pour des histoires de drogue, parce que vous avez soutenu cette loi, parce que vous avez utilisé cette rhétorique de fermeté mensongère afin de faire élire des gens, mais cela a ravagé des communautés comme la mienne.
Mais l'ex-vice-président ce soir encaisse, dans son costume de leader tranquille, de modéré rassembleur avec un message éprouvé.
C'est une bataille pour l'âme de l'Amérique.
Face à Donald Trump, Joe Biden reste le grand favori, le seul, d'après les sondages, à pouvoir le battre largement en 2020. Un argument massu pour de nombreux électeurs démocrates. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le fils préféré, l'héritier à la tête d'Al-Qaïda, Hamza Ben Laden, aurait été tué avec la complicité des États-Unis. On ne sait ni où ni quand. Et le président Trump refuse tout net de commenter cette info sortie hier dans plusieurs médias américains.
Il est 8h14, pas de vacances pour les joueurs du PSG, Hélène.
Qu'on retrouve en ce moment en Chine. C'est là que se joue le trophée des champions samedi prochain face à Rennes et le club en profite. Petite tournée dans l'empire du milieu avec un accueil de stars hier à Shenzhen. La passion des Chinois pour le PSG, bizarre, non, plutôt le fruit de toute une stratégie, comme a pu le constater notre reporter envoyé spécial Nicolas Olivier.
Chaque jour ou presque, ils font le siège de l'hôtel du Paris Saint-Germain. Des supporters chinois, maillot sur le dos, venus parfois de très loin pour tenter d'apercevoir leur chouchou. Chen Yanming accompagne son fils. On a fait 7 heures d'avion et on reste 10 jours à Shenzhen. Pour Anaïs, pas question de rater cette nouvelle tournée chinoise du PSG.
C'est mon équipe préférée.
Alors, pour avoir une chance de rencontrer les joueurs, je suis venue ici. C'est difficile d'aller à Paris, donc si notre équipe peut venir ici, c'est très bon, c'est génial, c'est chouette, c'est super.
La popularité du club parisien continue de grandir auprès du public chinois. Robert Lee, un Martiniquais expatrié, coordonne les supporters de toute la Chine.
On a doublé, triplé de personnes. On était à 400, 500 personnes l'année dernière. Cette année, on est à plus de 2000 personnes qu'on peut contacter du jour au lendemain. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, vous voyez, c'est que des jeunes.
André est étudiant. Il a choisi d'apprendre le français grâce à sa passion pour le PSG.
Un jour, je rêve d'aller en France, aller au parc pour chanter, danser pour notre équipe rouge et bleu. Ne jamais rien lâcher, toujours encourager le PSG.
André et les autres donneront de la voix samedi lors du Trophée des Champions où Paris jouera un peu à la maison.
Ne jamais rien lâcher, toujours encourager, ça c'est du slogan. Enfin, c'est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. The Irishman, le dernier Martin Scorsese, encore une histoire de gangster dans l'Amérique des années 60 sur fond de syndicalisme vérolé et un face-à-face déjà mythique, Robert De Niro, Al Pacino.
Hello. Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Dans cette bande-annonce, mise en ligne hier par Netflix, une simple conversation téléphonique donc entre De Niro et Pacino, peut-être déjà un remake du face-à-face de légende façon Heat. Et le casting de rêve ne s'arrête pas là, il y a aussi Harvey Keitel ou encore Joe Pesci. Scorsese met le paquet, sorti du film cet automne, toujours pas de date, mais on peut reconnaître à Netflix le don de savoir comment nous mettre l'eau à la bouche.
Vous avez bien raison, Hélène Roussel. L'autre jour, j'avais pas le moral, alors je me suis repassé un film de Scorsese. C'est le documentaire qu'il a réalisé en 2008 sur les Rolling Stones. Ah bah. Shine a Light. 16 caméras pour filmer les Stones dans un théâtre. C'est absolument magnifique.
J'imagine que vous avez retrouvé le moral tout de suite, Pierre.
Merci, c'était le journal d'Hélène Roussel.